Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour à tous, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio pour votre émission pour adultes et pour les dames plus particulièrement en ce mois de mars 2019. Vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien dans Erosmose, votre émission mensuelle consacrée à l'érotisme, à la sexualité et toutes ces sortes de choses. En compagnie de moi-même, Stéphane, ainsi que de ma charmante collègue Laurence, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour petite friponne.
Oui, et puis ainsi que notre grand garçon derrière les manettes, Loïc, et une émission en ce mois de mars 2019 plutôt consacrée aux dames, disais-je, en l'honneur de la journée un peu particulière qui avait lieu vendredi dernier. Aujourd'hui, on est en studio, on est le vendredi 15 mars, c'est vendredi dernier, le 8 mars, c'était la journée de la femme, ou plus précisément la journée internationale des droits des femmes. On me reprend régulièrement sur le terme. Et du coup, bien, on va commencer avec un morceau qui nous amènera un petit peu dans le sujet, puisque le miroir de Vénus est le symbole qui a été repris par les organisations féministes notamment, eh bien Vénus, c'est le morceau qu'on va écouter tout de suite. Un grand classique à l'instant pour continuer sur Osmose Radio, évidemment, c'était Vénus du groupe Shocking Blue à la fin des années 60. Ça avait fait un carton à l'époque et on en discutait d'ailleurs en studio à l'instant. Puisque la lance de Mars et le miroir de Vénus sont les symboles associés à l'homme et à la femme en sociologie ou en biologie à l'occasion, en tout cas dans des sciences qui prennent leurs racines dans les siècles passés où le machisme avait bon dos, et bien du coup les féministes, à partir de la fin des années 60 justement, à l'époque où était diffusé ce morceau, morceau en radio, eh bien les féministes se sont réappropriées avec humour ce symbole, le miroir de Vénus, et pour en faire un symbole militant en l'occurrence. Et du coup, ben nous, on s'est un petit peu intéressé à une autre initiative qui a pris son, peut-être pas son envol, mais en tout cas son essor, à la fin des années 60 et dans le courant des années 70, au moment de la révolution sexuelle et des grands mouvements féministes, ça a été le planning familial. Et justement, grâce à tes relations de travail, Laurence, on a pu interviewer des personnes qui s'investissaient dans ce domaine-là. Et c'est, tu nous as mis en rapport avec certaines de tes collègues de l'hôpital d'Avignon, puisque toi-même, tu travailles là-bas finalement.
C'est là même, oui, j'ai cette chance.
Et du coup, ben là, on a pris un enregistreur, on est allé à l'hôpital d'Avignon pour interviewer non pas les gens du planning familial tel qu'on l'entend, c'est-à-dire cette association qui existe depuis les années 70 pour renseigner les femmes sur l'avortement et la contraception notamment, mais sur un service hospitalier plus précisément. Mais bon, je vais céder la place à nos invités, Sandy et Shafika, qui justement nous ont renseigné un petit peu sur les différents aspects de leur activité. On vous diffuse ça et on se retrouve tout à l'heure.
Stéphane et Laurence, mercredi 13 mars, on est à l'hôpital d'Avignon pour interviewer, dans le cadre de la journée de la femme qui avait lieu la semaine dernière, la journée internationale des droits de la femme, pardon, qui avait lieu vendredi 8 mars, on tenait à interviewer deux responsables de l'hôpital d'Avignon. Tout d'abord, Sandy Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre de planification et d'éducation familiale et à côté, une de vos collègues, Shafika Ladesia, bonjour.
Bonjour.
Vous-même, vous travaillez aussi dans ce service, vous investissez dans ce service de l'hôpital d'Avignon, qui diffère d'ailleurs du fameux planning familial dont on connaît déjà l'existence, mais vous nous expliquerez tout ça. Vous travaillez dans ce service respectivement depuis 2004 et depuis 2012, c'est bien ça ?
Oui, alors moi je travaille, Sandy Duval, je travaille sur le centre hospitalier depuis 2004 et je suis cadre sage-femme responsable de cette unité entre autres depuis 2012.
Quant à vous ?
Et j'y travaille depuis 2012.
Voilà. Alors, je disais, oui, le statut de ce service, en fait, est un service hospitalier qui diffère du planning familial tel qu'on a l'habitude d'entendre parler, qui lui-même est une association. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la différence entre les deux ?
Ben, le planning familial est une association, donc on n'est pas du tout sur des financements publics. Enfin, je ne connais pas exactement les statuts du planning familial.
Il est reconnu d'utilité publique, donc il reçoit des financements publics, il me semble.
Donc voilà. Mais en tout cas, au centre hospitalier d'Avignon, nous avons une unité qui est le centre de planification et qui fait partie à part entière de l'hôpital d'Avignon.
Et vous-même, Shafika, vous avez eu un petit peu un pied dans les deux domaines, dans le domaine associatif et le domaine hospitalier, je crois.
Oui, tout à fait. C'est très complémentaire.
Mais en fait, les missions sont un petit peu différentes, mais le thème et les problématiques qu'on y affronte sont les mêmes.
Les thèmes sont les mêmes. On peut dire peut-être que le planning familial reçoit beaucoup plus de jeunes que nous en recevons, même si on en reçoit quand même. Et le public et les thématiques sont exactement les mêmes. Nous sommes sur les mêmes missions de la prévention. On se déplace dans les établissements scolaires, dans les centres de formation pour faire de la prévention. On reçoit des personnes sur les thématiques qui sont liées aux sexualités, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe des personnes. Elles peuvent venir seules, en famille, en couple, pour discuter alors de questions de contraception, d'avortement, de questions face à une grossesse qu'on n'a pas prévue, comment on se positionne, on garde pas, on s'oriente vers l'accouchement sous X. On propose un accompagnement bienveillant avec une équipe pluridisciplinaire, trois conseillères conjugales et familiales, trois médecins dédiés au centre de planification. On a des psychologues, on travaille avec des sages-femmes, des assistantes sociales, effectivement.
Très bien. Donc, ce service qui est aujourd'hui sur le site de l'hôpital Dufaux existait déjà à l'époque de l'hôpital Sainte-Marthe qui se trouvait en centre-ville à Avignon. Alors, les missions de ce centre d'éducation, enfin de planification et d'éducation familiale, vous nous les avez résumées un petit peu, mais prenons un cas concret si vous voulez bien. Parce que ça peut, comme vous l'avez suggéré à l'instant, ça fait du bien, ne serait-ce que ça, de parler à une tierce personne avec laquelle on n'a pas de relation directe. Et pour les publics qui viennent vous voir, je suppose, étant un béotien, que la plupart des personnes que vous accueillez sont des filles relativement jeunes qui sont ignorantes sur bien des points. C'est peut-être un préjugé de ma part, vous allez peut-être me renvoyer dans les cordes, qui a un petit peu des difficultés et des connaissances assez limitées sur les problèmes de maternité qu'elle est amenée à affronter de fait. Est-ce que c'est un exemple si courant que ça, ou est-ce qu'il y a une diversité des publics aussi qui est parfois inattendue, des personnes plus âgées, voire des couples homosexuels ou des garçons aussi qui accompagnent, qui viennent seuls ou qui accompagnent leur amis ?
Alors, je pense que la vie n'est pas linéaire, comme vous le savez, hein, je pense. Donc, on peut être confronté à des difficultés, effectivement, en lien avec la maternité ou bien simplement la sexualité quand on est jeune. Et on peut être confronté aux mêmes problématiques à 25 ans ou lors d'un divorce, se poser des questions sur son couple, être confronté à des problématiques aussi en lien avec la maladie. Donc, on a mis en place une consultation d'accompagnement et de soutien à la vie affective en post-cancer. Voilà, donc on essaie vraiment, et puis on peut accueillir tout à fait des personnes retraitées, pourquoi pas, on en parle de plus en plus, hein, de cette deuxième vie des personnes de plus de 50 ans, 60 ans. Donc on est amené notre centre de planification il est ouvert, enfin, c'est le principe, on accueille toute personne qui se présente de la même manière, que ce soit des hétérosexuels, que ce soit des mineurs, que ce soit des adultes, que ce soit des couples, ce que disait Chafika à l'instant. Voilà, il y a pas de préjugés, les portes sont vraiment ouvertes et on soutiendra, et on soutient notre mission, c'est ça, c'est vraiment, voilà, je crois que on est là pour accueillir et accompagner les patients, les personnes, à tout moment de leur vie intime, affective, familiale. Voilà, je crois que c'est ça ce qu'il faut retenir. Si c'est dans une demande d'IVG, bien évidemment, parfois les femmes vont au bout de cette IVG et parfois non. Donc, il va falloir accompagner cette grossesse qui, au départ, partait avec beaucoup d'interrogations. Donc, comment on accompagne les femmes, les couples dans leur parentalité? Et puis, parfois, on accompagne des couples aussi qui sont dans une difficulté familiale. Au départ, ils pensaient peut-être se séparer. Puis, finalement, on aboutit à quelque chose de positif, voire parfois une séparation, hein, qui peut être nécessaire. Mais c'est vraiment l'accompagnement. Voilà, je crois que c'est quel que soit le sexe, l'âge, peu importe. Voilà, on est...
De fait, quand on pense à planning familial, on pense à la sexualité, la contraception et l'avortement, puisque ça a été les thématiques de base dans les années 60 de ce mouvement-là. Mais vous faites bien de le rappeler, il y a beaucoup d'autres aspects. Et puis, les changements sociaux et le vieillissement de la population font que des questions qu'on ne se posait pas il y a 50 ans viennent. Dans le secret de vos consultations, en quelque sorte, se posent à un moment donné. Et vous vouliez réagir justement à ce propos, Chafika.
Oui, je voulais réagir sur le mot ignorance que vous avez utilisé tout à l'heure, comme si la question de l'avortement se résumait à la question de la connaissance des moyens de contraception qui sont mis à la disposition des femmes. Et je voulais faire un petit aparté sur l'âge des personnes qui ont recours à l'IVG. On a plus de femmes de 40 ans qui ont recours à l'IVG que de jeunes filles de moins de 18 ans, en fait. Ouais, ça vous étonne.
Oui, j'en suis le premier surpris, je reconnais.
Je suis en charge des chiffres et c'est très étonnant de faire parler les chiffres et de voir l'âge des personnes au moment des demandes d'IVG. Finalement, les jeunes filles de moins de 18 ans qui ont pu bénéficier de séances de prévention, mais qui plutôt font attention puisque l'âge du premier rapport reste à peu près identique depuis des décennies, hein, c'est autour des 17 ans. Et que finalement, pour le premier rapport, on peut supposer que nos jeunes font très attention, sont prudents. Et que finalement, elles ont moins recours à l'IVG, ces jeunes filles de moins de 18 ans, que ces femmes de plus de 40 ans.
Moi, j'ai pu le constater, on fait plusieurs forums, des forums santé, notamment sur le centre hospitalier d'Avignon, et sur notre stand où on présente des préservatifs féminins, masculins, on parle de sexualité de manière assez ouverte. Finalement, on a plus de questions ou d'interrogations autour des moyens de contraception et des moyens de prévention des IST chez les personnes de plus de 50 ans ou de 60 ans. Moi, je me suis vue dire à des femmes de 60, 65 ans, mais vous n'êtes pas immunisée contre le sida, qu'on soit bien d'accord. Vous n'êtes pas immunisée non plus contre l'hépatite C. Les moyens de contraception qu'on est en train de vous présenter là, ce sont des moyens de contraception qui sont adaptés à des mineurs, à des jeunes femmes, des jeunes hommes, mais... Et avant tout, surtout, peut-être aussi à vous, c'est-à-dire que la recrudescence chez les personnes de plus de 60 ans des maladies sexuellement transmissibles est un signe d'une révolution, ou en tout cas d'un changement sociétal qui fait que toutes ces questions-là se posent aussi chez ces personnes qui n'ont jamais mis de préservatif. C'est-à-dire que quand ils avaient, eux, leur premier rapport, peut-être à 17, 18 ou 19 ans, ils n'ont pas utilisé le préservatif. Donc notre mission, elle est aussi de les informer, de les accompagner dans cette nouvelle vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Tout à fait. Et rappeler quand même que les sexualités restent un sujet tabou, difficile à aborder. Et quand il s'agit de prévention, effectivement, à partir d'un certain âge, on pense être immunisé contre toute forme d'IST, toutes les IST. Hein. Et quand on rappelle l'importance d'utiliser un préservatif, on sent de la gêne. Et quand on parle du préservatif féminin, alors là, en France, il est très, très peu utilisé. Alors, très peu utilisé et très peu connu aussi. Là, on peut parler de méconnaissance.
Alors attention, il n'y avait pas du tout de condescendance dans le terme que j'avais utilisé, mais je me faisais l'écho d'un préjugé largement répandu, que ça me fasse plaisir ou non d'ailleurs, et donc forcément c'était aussi un moyen de vous faire réagir par rapport à ça. Comme quoi il y a de quoi être étonné, puisque les gens qui ont 60-70 ans aujourd'hui, on peut penser qu'ils ont connu la révolution sexuelle et les renseignements sur les moyens de contraception, et selon les milieux sociaux dans lesquels ils étaient, pas forcément très bigots, mais parfois peut-être où on ne parlait pas forcément de ça, ces difficultés resurgissent à 40 ans d'écart. Donc vous nous l'apprenez et j'en suis le premier surpris. Néanmoins, un autre aspect dans cette diversité des publics que vous accueillez qui m'intriguait, un autre aspect, malheureusement, c'est aussi la diversité des opposants aux missions premières d'un service comme le vôtre, à savoir l'éducation sur la contraception et l'avortement. Et je pense bien évidemment aux extrémistes religieux qui ne sont pas forcément aussi virulents ici qu'aux États-Unis, mais tout de même. Alors je me demandais si dans votre expérience à vous, vous avez eu affaire à des excités, des commandos anti-IVG, voire des gens carrément menaçants.
Non, enfin, en tout cas, de mon expérience à moi au centre hospitalier depuis 2004, je n'ai pas été confrontée à ces difficultés-là, ni par voie de courrier, ni de manière directe, en tout cas pas personnellement. Voilà, et je n'en ai pas entendu parler non plus.
Pourvu que ça dure, quant à vous ?
La même réponse que Sandy, hein, non, vraiment non. Alors il y a certains sites qui donnent de la fausse information concernant l'IVG. Il me semble que certaines jeunes filles qui sont très inquiètes quant au déroulé des méthodes vont se renseigner sur Internet et que sur certains sites, on peut supposer que ce sont des sites anti-IVG parce qu'elles arrivent vraiment très inquiètes de ce qui va leur arriver, de ce qu'elles vont être amenées à vivre.
Les fameuses fake news, vous faites bien de le rappeler, j'avais pas pensé à ça. Un autre aspect aussi, sur lequel je suis largement moi-même ignorant, mais je ne voulais pas faire l'impasse, c'est les violences gynécologiques dont font parfois l'objet certaines femmes. Je pense à un cas dont j'avais entendu parler d'une femme qui avait avorté et le gynécologue qui s'était occupé de l'opération lui avait mis une échographie de son fœtus sur le ventre en lui disant « Madame, je vous laisse méditer là-dessus ». Procédé qui est tout à fait ignoble. Je me demandais si vous avez eu affaire et si vous êtes amené à faire des genres de négociations avec des gens qui auraient de telles pratiques ou si tout simplement vous manquiez carrément de gynécologues qui étaient disposés à faire ce genre d'opération d'avortement eu égard à la fameuse clause de conscience qui a fait polémique il y a quelques mois.
Alors nous avons une équipe au centre hospitalier d'Avignon qui est une équipe médicale, hein, qui est dédiée et qui a fait le choix de prendre en charge ces patientes. Donc on a 3 médecins qui sont responsables de cette activité. Alors pas 3 temps plein, hein, mais en gros on couvre la semaine sans aucun problème. Écoutez, j'ai envie de vous dire que si on avait été confronté ou si on était à l'avenir confronté à de tels agissements, nous serions les premières, même si on n'est pas censé militer dans un centre hospitalier, nous serions les premières à faire remonter l'information et à faire le nécessaire pour que ces médecins ne prennent pas en charge ces patientes. Voilà, on met beaucoup de cœur et beaucoup de professionnalisme dans notre prise en charge. Il n'est pas question d'accepter de tels agissements de la part d'un médecin, de la part d'une sage-femme, de la part d'une conseillère conjugale. Voilà, mais c'est à toutes les strates de notre société. Voilà, je crois que le droit des femmes est avant tout la première chose à mettre en avant, que ce soit face à des militants anti-IVG, que ce soit... On est en France, on a des droits, les femmes ont des droits, et je pense qu'on est là pour les défendre. Et on sera les premières à le faire si c'était le cas. Voilà.
C'est pas un acte militant engagé politiquement que de demander à respecter la dignité, je vous rassure.
Oui. Enfin, bon, voilà. Hein,
non, je comprends.
Côté militant qui ressortirait éventuellement pour défendre le droit des femmes.
À la radio, on ne vous a pas vu bomber le torse, mais on veut bien vous croire. Un autre aspect qui est forcément soucieux, même si je n'en connais pas les détails, c'est la question des financements. On sait que le gouvernement Fillon avait essayé de faire des coupes dans les financements du planning familial, en l'occurrence, qui est une association qui a un peu des missions similaires aux vôtres. Il avait été obligé de reculer devant la mobilisation des femmes et enfin, de la population, des citoyens en règle générale. Mais ce Léviathan couve et n'attend qu'une occasion de refaire surface et de faire reculer ces droits qu'on aurait tendance à tort à croire acquis, puisqu'on célébrait la loi Veil il n'y a pas si longtemps. Du coup, je me demandais si vous aviez des difficultés de financement dans votre service et s'il souffrait plus que d'autres services, si les politiques étaient menées, je ne parle pas d'un gouvernement en particulier, attention, si la question des financements vous posait de réelles difficultés dans votre fonctionnement au quotidien.
Alors, nous avons un financement partiel par le conseil départemental du Vaucluse, puisque ça fait partie des missions de santé publique que d'avoir un centre de planification. Et nous avons bien évidemment un financement par le centre hospitalier d'Avignon. Non, je dirais qu'à l'heure actuelle, l'hôpital en général a des difficultés, bien évidemment. On l'entend tous les jours. Mais en ce qui concerne l'hôpital d'Avignon, nous allons agrandir nos locaux puisque l'unité de centre de centre d'éducation familiale fait partie des consultations de gynéco-obstétrique. Nous allons nous agrandir, nous allons créer une unité dédiée avec deux salles d'examen médical, une salle d'échographie dédiée, une salle d'attente dédiée. Donc on va mettre vraiment beaucoup de moyens à cette activité. Donc nous ne sommes pas à ce jour concernés par... bien sûr, c'est dans un budget qui est donné, bien évidemment, mais... on n'a pas de difficulté aujourd'hui de gestion pour ce service. En tout cas, moi, je ne le ressens pas sur le terrain. Voilà.
Pourvu que c'est dur. Laurence, ma chère collègue, est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu oublier ?
Si on voulait reparler de l'IVG proprement dit, moi, j'aurais bien aimé que tu poses la question à Shafika ou à Sandy, parce qu'il y a quand même deux méthodes qui existent. Peut-être que ça peut intéresser les auditeurs aussi, en fonction de la grossesse, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il y a deux méthodes retenues en France, l'IVG qu'on appelle le RU, la petite molécule chimique, et puis l'IVG qui se passe au bloc opératoire, la méthode d'aspiration. On peut peut-être en parler et dire deux mots, Shafika.
Alors, on rappelle quand même qu'en France, et en fonction de l'âge de la grossesse, c'est la femme qui a le choix des méthodes. Donc, jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée, une femme peut avoir recours à l'IVG médicamenteuse avec une première prise à l'hôpital en face du praticien, une deuxième prise à la maison. Et puis jusqu'à 9 semaines avec une deuxième prise hospitalisée, ça peut être encore une IVG médicamenteuse. Et au-delà, jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, elles peuvent avoir recours à l'IVG chirurgicale, dite par aspiration.
Le terme aménorrhée, c'est...
Alors aménorrhée, c'est on part, quand on compte une grossesse, on part du premier jour des dernières règles. Et semaine de grossesse, on y retranche 15 jours. C'est bien ça, Sandy ?
Aménorrhée, c'est des semaines sans règles pour être... Et l'âge de grossesse, c'est à partir du jour de la fécondation, savoir à quel jour on est. Voilà. Donc nous, on parle en semaine d'aménorrhée, il y a 15 jours de décalage. Voilà. Donc si on va en termes de droit, de l'égalité de l'IVG, donc 14 semaines d'aménorrhée, 12 semaines de grossesse. Voilà, c'est la date limite d'IVG en France.
Et je rappelle quand même qu'à l'hôpital d'Avignon, le délai est respecté et on va vraiment jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée.
Ce qui signifie que dans d'autres hôpitaux de France, c'est peut-être plus compliqué.
C'est plus compliqué. Certains annoncent qu'ils ne vont pas au-delà de 12 semaines. Alors peut-être pour des raisons techniques.
La technique est quand même plus compliquée, c'est-à-dire que plus la grossesse est avancée, plus la taille, bien évidemment, de l'embryon est plus grande. Donc, les risques chirurgicaux sont plus importants aussi. Donc, ici, on a une équipe qui est dédiée. On a au bloc opératoire une salle pour nous, avec un appareil d'échographie pour vérifier. Donc, voilà, les risques médicaux encourus aussi sont plus importants. Voilà, donc on a une équipe qui prend en charge cet accompagnement. Mais bon, ça devrait être partout en France, on est bien d'accord.
Où les IVG se font jusqu'à beaucoup plus tard. J'ai lu quelque part en Espagne, 28 semaines, j'ai lu, 22 semaines. C'est... Voilà, c'est important de le dire aussi, parce que ça pose peut-être davantage de risques aussi. On s'expose, on n'expose pas à la... Non ?
Alors, c'est des cliniques qui sont très médicalisées, qui font ça sans trop de risques. On a quelques demandes quand même qu'on appelle délai dépassé quand les femmes arrivent avec une grossesse bien avancée. Certaines prennent ces adresses où elles peuvent aller se faire avorter jusqu'à 22 semaines. Alors, comme on est dans le sud de la France, on oriente plus vers Gérone ou Barcelone. Et là, elles peuvent avoir recours à une IVG avec des délais plus tardifs. Tu veux rajouter quelque chose, Sandy ?
Ben non, mais la loi... est quand même censé... Donc, la loi en France, c'est vraiment 14 semaines. Et après, voilà, on passe l'info quand elles le demandent, mais souvent elles le savent. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin, on parlait tout à l'heure d'Internet, les informations circulent. Après, je pense qu'il est important quand même de rappeler, enfin, surtout les risques. Voilà, je pense que c'est les risques pour la femme et son avenir gynéco-obstétrical. Mais ça existe dans d'autres pays. En France, c'est interdit.
On coupera au montage, vous en faites pas.
Je voudrais bien dire, et Shafika va en parler, on peut... quand on est mineur, on a tout à fait le droit de venir, tout, en ce qui concerne l'IVG, hein, quand on est mineur, on a tout à fait le droit de venir dans le cadre d'une IVG et garder l'anonymat le plus total. Quand on est majeur, aussi, l'anonymat peut être tout à fait respecté. Ça suit des règles, mais c'est tout à fait possible, le dit, parce que ce n'est pas forcément connu. Shafika, tu connais bien ça. Toi, d'ailleurs, tu vas nous en parler.
Alors, on reçoit parfois... Alors, les jeunes filles mineures, effectivement, il faut absolument qu'elles soient accompagnées d'un adulte référent, mais elles ont, que ce soit pour l'IVG ou pour la contraception, elles bénéficient de l'anonymat total. Dans certaines situations, on peut trouver des solutions afin qu'une femme puisse avoir recours à une IVG dans l'anonymat le plus total. Alors, quelle que soit la situation de sa femme, cette femme-là, parfois, elle est mariée et souhaite interrompre cette grossesse sans que monsieur soit informé. Parfois, elle est en cours de séparation. Alors, différentes situations peuvent se présenter. Et ça peut se dire, on peut trouver des solutions. En discutant, grâce à Laurence aussi, on travaille vraiment en lien toutes les deux. Et puis, on trouve des solutions pour permettre à ces femmes-là de pouvoir avoir recours à l'IVG dans un anonymat qui éviterait très certainement certaines violences vécues dans le couple.
Et un autre aspect, quand je parlais de diversité des publics tout à l'heure, je n'ai pas voulu m'apesantir dessus, mais je me disais que parmi les personnes âgées qui pouvaient être amenées à venir vous consulter, il pouvait aussi y avoir des grands-mères ou des grands-pères qui venaient avec leur petite fille, qui ne voulaient surtout pas que papa et maman soient au courant qu'elles avaient fauté, entre guillemets. Et déjà, fauté, c'est un terme qui recouvre un jugement de valeur. Et que donc, c'était plutôt la génération des grands-parents qui, en grand secret, accompagnaient les enfants. C'est le cas de figure que vous rencontrez, ça?
Alors, bien souvent, oui. Dans les accompagnants des jeunes filles mineures, on a bien souvent le grand-père ou la grand-mère avec qui ces jeunes filles ont tissé une relation de confiance et qui viennent ici accompagner ces jeunes filles et qui gardent le secret. Tout à fait. Alors, dans les accompagnants, on a beaucoup d'hommes. Ça, c'est aussi pour déconstruire une idée reçue. 60% des personnes plus de 60% des personnes qui accompagnent ces femmes qui sont en demande d'IVG notamment, sont de sexe masculin. L'idée reçue, c'est quand même par certaines jeunes filles ou certaines femmes, c'est que lorsqu'une grossesse non programmée survient, monsieur s'en va et ne donne plus de nouvelles. Bien souvent, il est là, il soutient, il accompagne et vraiment de façon très, très bienveillante et très intéressée, mais dans l'idée de « je m'intéresse à ce que va vivre ma compagne ».
Oui, ça fait plaisir que vous souligniez ce cas de figure, puisqu'on aurait tendance à rester sur cet autre cliché, hein, que tous les hommes sont des salauds et qu'on en fait des chansons, etc. C'est pour déconstruire
cette idée-là, qui est très largement partagée par les jeunes filles adolescentes. Et ça, on s'en rend vraiment compte lorsqu'on fait des interventions de prévention auprès des jeunes filles et des jeunes gens, garçons qui sont en troisième, où vraiment les filles pensent que les garçons disparaissent lorsqu'il s'agit de parler d'une grossesse qui arrive sans qu'on l'ait programmée.
Tant mieux, comme quoi. Et écoutez, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir de ce service, pour le futur ?
On ne peut que souhaiter longue vie à ce service, parce que c'est un service formidable, épatant, avec une espèce d'osmose dans l'équipe, un véritable esprit d'équipe, un enthousiasme, et des médecins aussi totalement au top, et longue vie. Après, moi, je te raconterai une petite anecdote, c'est juste pour la forme, et je te dirai pourquoi je suis tellement militante aussi pour ce genre de choses.
T'es pas objective, Laurence, tu peux aussi, si.
Je vais te raconter je vais la raconter tout de suite, cette anecdote. Moi, j'ai accouché il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les choses n'étaient pas tout à fait comme elles sont actuellement, et j'ai accouché par césarienne. Et quand je me suis retrouvée dans ce qui était la salle de réveil, j'étais parfaitement réveillée, j'avais accouché sous péridurale. Mais j'ai eu une césarienne pour présentation transversale. Le berceau de mon fils, un berceau en plexiglas, était au milieu dans la chambre. Et à côté de moi, il y avait un lit avec une jeune fille dedans qui était sans arrêt penchée sur le berceau. Et elle me dit, il est beau votre bébé. Et je lui dis, moi bêtement, je lui dis, ben merci beaucoup, et vous? Et elle me dit, je viens d'avorter. Et la colère m'a saisie. Enfin, la colère m'a saisie sur le coup parce que je trouvais que c'était inhumain d'avoir mis cette jeune fille et le berceau de mon fils entre nous deux. Donc on a discuté, parce que je suis quand même une chatcheuse, tu le sais bien. La gamine avait 17 ans et elle pleurait toutes les larmes de son corps en regardant le berceau de mon fils. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle avait 17 ans. Et c'est moi, qui suis toujours pas conseillère, hein, Shafika, qui l'ai un petit peu consolée en lui disant que ce qu'elle avait fait, c'était de toute façon la meilleure solution pour elle à ce moment précis de sa vie. Et je me rappelle lui avoir dit, un jour, vous aurez un bébé que vous aurez choisi de faire parce que les conditions seront peut-être réunies, parce que vous aimerez votre compagnon. Enfin, tout ce que je pouvais dire à ce moment-là, parce que j'étais moi-même bouleversée. Et je lui dis, vous reviendrez me voir. Mais je pensais que c'était une parole en l'air. Sauf que 7 ans après, cette jeune fille, elle est arrivée devant mon bureau avec une poussette. Et elle m'a dit, mais vous me reconnaissez? Et j'ai dit, je suis désolée, non, je ne vous reconnais pas. Et elle m'a raconté cette histoire. Et je me suis dit, là, à partir du moment où j'avais accouché, je me disais, quoi qu'il arrive, je militerai à ma façon pour que l'IVG soit reconnue différemment, que les droits des femmes soient reconnus différemment et qu'on ne les sabote pas comme on l'avait fait il y a 30 ans. Et ça se passait il y a 30 ans. Et je peux te garantir qu'en 30 ans, les choses ont évolué d'une force. C'est pour ça que je salue ce service, je salue les gens qui y travaillent, je salue cette équipe et je lui souhaite vraiment longue vie.
Et moi aussi, quand je serai en cloque, j'en aurai des anecdotes à raconter. Mais bon, comme disait Renaud, hein, moi, je ne serai jamais en cloque. Ta-ta-ta.
Mais c'est ce qui se faisait à l'époque. C'était la punition. Ouais, c'était la punition.
Ah, vous pensez que ça avait été fait à dessein?
C'est ce qui se pratiquait couramment à l'époque. C'est-à-dire que les jeunes filles qui venaient d'avorter partageaient une chambre avec des femmes qui venaient d'accoucher.
Ah, j'aurais cru que c'était par manque de lit, mais en fait, pas forcément.
Vous la mettez dans le couloir, hein? Non, il y avait une espèce de vertu, punitive entre guillemets, mais il y avait quand même cet aspect-là qui était tout à fait nauséabond. Hein.
De même qu'il existe encore des personnes qui font des échographies à des jeunes filles qui souhaitent avorter et qui détaillent l'embryon en disant, en voulant culpabiliser les jeunes filles, en leur disant mais vous voyez, il est bien formé, le cœur bat, d'ailleurs écoutez-le. Alors les filles entendent une activité cardiaque et alors là, en termes de culpabilité, c'est quelque chose, il faut vivre avec. Alors est-ce que c'est fait à dessein? Bien sûr.
C'est pas illégal, mais c'est extrêmement sournois et pernicieux.
Bien sûr. Donc la question de l'IVG, quand même, c'est une question qui n'est pas tout à fait réglée, puisqu'il y a toujours des personnes qui veulent empêcher le recours à l'IVG. Et le déremboursement, l'acte est toujours aussi mal, n'est pas valorisé. L'acte pour un gynéco qui pratique les IVG n'est pas valorisé. Hein. Certains font, mettre en avant leur clause de conscience, d'où pour certains centres hospitaliers l'incapacité à faire face à toutes les demandes IVG. Donc, quid de ces femmes qui se retrouvent dans des zones rurales à devoir faire des kilomètres pour avoir recours à une IVG?
Effectivement. Alors, il ne s'agit pas de faire de la politique. On sait que le Parti communiste français n'a pas vraiment été en avant sur l'histoire, sur la problématique, en tout cas de la contraception, puisqu'il ne la souhaitait pas dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, nous, on est à Avignon, on est dans la région qui, historiquement, est le Midi Blanc, c'est-à-dire royaliste, catholique et très, très conservateur, si ce n'est réactionnaire. Et du coup, on a Marion Maréchal Le Pen à Carpentras qui, elle, milite activement pour le déremboursement, au moins. Et ensuite, c'est la première marche vers autre chose, sans doute, le déremboursement de l'IVG, alors qu'elle-même fait partie des classes sociales qui, dans les années 70, auraient pu aller en Angleterre.
Oui, mais tout à fait. Alors, pour l'instant, on a la chance d'avoir une IVG qui est remboursée à 100%, ce qui fait que les femmes n'ont pas d'avance de frais à faire et que l'acte est entièrement remboursé. Alors, est-ce que c'est un droit qui est menacé? On peut se poser la question aux personnes que vous venez de citer.
Et il n'y a pas trop des formalités administratives qui auraient tendance à te décourager?
On voudrait les alléger le plus possible. On fait tout ce qu'on peut. C'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration. Mais malheureusement, il en reste parce que même si l'IVG est remboursé à 100%, on est quand même tenu d'envoyer un certain nombre de données qui passent par des flux dans des tuyaux en direction de la Sécurité sociale. On allège le plus possible. Mais malheureusement, il reste quand même un dossier un dossier médical, ça c'est certain, et un dossier administratif qu'on tâche quand même maintenant d'épurer le plus possible. Avec les infos requises, le minimum d'infos requises pour pratiquer une IVG en toute sécurité, après, ça coince encore un peu là-dessus. Mais on va y travailler encore plus. C'est pour ça qu'on se concerte beaucoup avec Shafika ou les autres conseillères. On essaye d'alléger le plus possible.
Mais vous ne pouvez pas forcément prendre au niveau local des décisions qui contreviendraient avec des directives qui viennent du niveau national.
Par exemple, on ne peut pas trop, en dehors de l'anonymat, où on respecte l'anonymat des personnes, par exemple, sur une identité, on est tenu de, ne serait-ce que pour l'identité, on est tenu d'avoir la bonne identité parce qu'à cette identité est rattaché un dossier médical. Ça, c'est une des choses élémentaires. Après, le reste, c'est des données. Il y a certaines données, même l'adresse, à la limite, on en a une, mais elle pourrait ne pas figurer. On va travailler à ça aussi.
Un autre aspect, puisque tu parles de données, je n'y avais pas pensé en préparant cette interview, mais les données, ben, ce sont aujourd'hui des sujets sensibles, rapport au trafic qu'il peut y avoir. On pense évidemment à Facebook, au feed sur Facebook, mais il y en a d'autres et bien plus graves. Et donc, les données d'un dossier médical sont extrêmement sensibles. Est-ce que, à votre connaissance, il y aurait eu des démarchages de sociétés d'assurance, par exemple, pour obtenir des données médicales de patients pour, je ne parle pas de piratage, hein, je parle de démarchage commercial auprès des hôpitaux publics dans lesquels vous travaillez, par exemple? Ou bien est-ce que la loi informatique et liberté vous oblige à certaines formalités, là encore?
Alors, à ma connaissance, non, mais je vais pas être formelle. S'il y a des piratages, ils doivent être quand même extrêmement ciblés parce qu'on a un service informatique surpuissant. Le démarchage, de toute façon, serait, même s'il avait lieu, il serait renvoyé dans les cordes. Hein. On ne fournira aucune donnée, absolument aucune donnée, parce que ça fait partie de déontologie aussi. Hein. On ne fournit pas les données.
On est bien d'accord. Bah, écoutez, on vous souhaite pour ce service le meilleur. Je merci Sandy et merci Shafika.
Merci à vous d'être venu.
Et merci pour votre investissement dans un tel service. Puisque c'est bientôt le printemps, j'ai envie de dire merci de faire en sorte que les jeunes filles en fleurs puissent faire de beaux fruits au moment où elles l'auront décidé. Voilà, c'était ma conclusion à la Proust. Merci.
Voilà, chers amis, de retour dans le studio d'Osmose. Après cette interview un petit peu longue, j'en conviens, c'était une 30 minutes, mais c'était passionnant et pour ma part, je suis très heureux de l'avoir faite. Vous êtes bien dans Erosmose avec Laurence, avec Stéphane. Et aujourd'hui, pour cette émission du mois de mars, on tenait à parler du droit des femmes en l'honneur de la Journée internationale du droit des femmes qui avait lieu vendredi dernier, vendredi 8 mars. Et alors, c'est une interview que, pour ma part, m'a porté beaucoup puisque ça m'a permis de remettre en question, pas vraiment des préjugés, parce que je suis pas tant un gars à préjugés que ça, mais comme tout le monde, j'ai des idées reçues qui sont bien installées dans ma tête, et du coup, j'ai été un petit peu obligé de les reconsidérer par rapport aux réponses de certains de tes collègues, Laurence. Et du coup, il y a aussi un truc qui a pu choquer les auditeurs, je le reconnais volontiers, et je vais m'expliquer là-dessus, c'est qu'on fait une interview sur les droits des femmes, on interview des dames qui travaillent dans un centre de planning familial hospitalier, et c'est un garçon, moi-même, qui pose les questions et qui mène l'interview, alors que Laurence, tu aurais pu le faire.
Comme c'était mon secteur, je trouvais que c'était bien mieux que ce soit toi qui poses les questions.
Voilà, on s'était mis d'accord là-dessus, et sans forfanterie, c'est vrai que toi, comme tu étais partie prenante, étant sur ton lieu de travail, c'était peut-être mieux que pour l'occasion, ce soit moi qui tienne le micro, qui pose les questions. Encore que tu en avais posé quelques-unes auxquelles moi, bonhomme, j'aurais tout simplement pas pensé. Donc, comme quoi, on a toujours.
On est travaille en étroite collaboration.
Voilà, on travaille en équipe, Stéphane. Sur Osmose.
On est une équipe.
Et alors, deux petits aspects, par contre, où je dois nuancer les propos de nos invités, mais c'est vraiment anecdotique, c'est qu'en off, alors que le micro était éteint, elles ont admis elles-mêmes certains aspects. Par exemple, j'étais heureusement surpris qu'il n'y ait pas eu des commandos anti-IVG, tout ça, devant l'hôpital d'Avignon ou quoi. Mais tout de même, il y a eu une anecdote sur une dizaine d'années d'expérience, donc c'est quand même pas énorme. Mais tout de même, un jour, il y a eu une maman qui était arrivée dans le bureau d'une de ces dames qu'on a interviewées, une maman surexcitée, très énervée, qui voulait absolument pas que sa fille avorte. Et les employés ont dû leur dire « Écoutez, madame, si vous refusez de sortir, on va être obligé d'appeler la sécurité. » Et là, la dame s'est dégonflée, elle est partie. Il y a eu juste une situation de tension comme ça une fois. C'était purement anecdotique, mais tout de même, ça existait. Et par ailleurs, elles ont admis après, quand on a discuté avec elles, que, qu'aujourd'hui, les gamins qui écoutent du porno, qui regardent du porno sur Internet, ça leur tient lieu souvent, hélas, en regardant des vidéos sur les tubes et en consommant régulièrement, ça tient lieu, hélas, pour beaucoup, de leçons d'éducation sexuelle. Or, ce qu'on voit dans les pornos, évidemment, c'est du cinéma, c'est fantasmé. Et si mon micro arrête de déconner, au lieu de me censurer, je conclurai en disant que plus généralement, Internet est un lieu non seulement d'information, mais aussi parfois malheureusement de désinformation.
Absolument.
À cause voilà, de la surconsommation de porno ou tout simplement des associations qui se dissimulent derrière des fake news qui permettent de faire passer des intoxications au niveau de l'information en se prévalant d'un message féministe ou écologiste et qui en fait font passer des idées souvent liées à des milieux d'extrême droite ou islamiste le plus souvent, mais on trouve aussi des gens qui ont une conception indigéniste, anticolonialiste du féminisme qui est parfois assez discutable. Mais là, c'est un autre débat auquel on s'attachera dans une prochaine émission. Et pour le moment, et bien justement pour faire écho à cette interview, je tenais à ce qu'on écoute, on va faire une petite pause musicale, avec une chanson qui a été emblématique en son temps, dans la première moitié des années 70, une très jolie chanson d'Anne Sylvestre, « Non, tu n'as pas de nom ».
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
On n'a pas de nom, mais on a beaucoup d'émotions en écoutant cette chanson d'Anne Sylvestre qui date de la première moitié des années 70, une époque assez tendue au niveau du combat féministe et en règle générale dans la société française. C'était l'année des 343 salopes.
Ah, oui.
C'était l'année où Gisèle Halimi défendait devant les tribunaux des femmes accusées d'avortement avec des aiguilles tricotées encore à l'époque. Hein. C'était l'année où Simone Veil, sous les huées, défendait le projet de loi pour l'avortement libre et gratuit. Voilà, donc cette chanson d'Anne Sylvestre a été extrêmement symbolique à l'époque et en plus c'est un joli texte. Et tout à l'heure, moi je vous parlais de. Je faisais ma conclusion à la Proust en parlant des jeunes filles en fleurs. Là, on a joué un joli texte d'Anne Sylvestre et justement, ben, la littérature, c'est ton rayon, Laurence.
Alors c'est un petit peu mon rayon, mais juste avant, je voudrais quand même remercier quelqu'un. J'étais pas née, vous ne l'étiez pas non plus. Et Loïc, tu connais la personne bien mieux que moi. Et je vais adresser un clin d'œil, c'est une formule, hein, à Olympe de Gouges, parce qu'elle a quand même un peu mouru. Elle a mouru guillotinée quand même, Olympe de Gouges. Mais enfin, elle avait présenté un texte de constitution sur les droits de la femme en 1791, quelque chose comme ça. Loïc, tu pourrais m'en dire plus. Donc Olympe, elle est morte girondine. Girondine.
Est-ce qu'elle était gironde en plus d'être girondine,
ben, en fait, elles étaient un peu girondes à l'époque. Hein, et peut-être que si elle avait pu aussi présenter un texte sur l'autorisation d'avorter, elle l'aurait sans doute fait. Mais on avorte depuis la nuit des temps, c'est à peu près aussi vieux que la prostitution. Alors, en matière de littérature, moi, c'est le printemps de la poésie, ça ne vous aura pas échappé.
Oui.
Ça fleurit partout en France. Pas vrai, Stéphane?
Ça fait florès, en tout cas, un petit peu
tout
partout.
À fait. Et on voit les belles affiches qui sont là dans la ville, qui sont signées d'ailleurs Enki Bilal, dont le thème, c'est la beauté. Donc, on peut se lasser tout, mais pas de la beauté. Et puis, en matière de littérature, on est dans une émission Erosmose. Moi, j'ai choisi une lettre de Frida Kahlo à Diego Rivera. Alors, Frida Kahlo, c'est le peintre mexicain, la femme peintre au mono-sourcil. C'était une femme...
Mono-sourcil, disons, c'est une moquerie souvent qu'on lui fait parce qu'elle avait un système pileux qui n'enlevait rien à son charme, mais dénote un peu dans nos canons de beauté habituels, quoi.
Et ben, tu sais qu'il y a un mannequin australien, je crois, qui fait aussi des buzz sur Internet parce qu'elle est actuellement en train de remettre le mono-sourcil à l'honneur. Et elle est une très jolie jeune femme mannequin avec un mono-sourcil. Donc, tu vois, Frida Kahlo, elle a peut-être initié une nouvelle mode.
Ben voilà.
Enfin bon, Frida Kahlo était, j'espère qu'elle n'était pas uniquement célèbre pour son mono-sourcil, mais bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas le voir. Une peintre avec peinture très, très colorée. Et puis, une peintre qui a quand même vécu dans des corsets, qui a été suppliciée avec un corps très torturé. Hein.
Elle a eu un accident de bus?
Oui. C'était vraiment... Et qui a connu une passion avec un autre peintre mexicain, Diego Rivera, une passion un peu houleuse, faite de haut, de bas, de tourments, de désamour, mais d'amour aussi. Et moi, j'ai choisi une lettre qu'elle lui a écrite le 12 septembre 1939, mais qu'elle ne lui aura jamais envoyée. Alors, elle est un petit peu longue, mais après tout, j'ai le temps. « Ma nuit est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma nuit est sans lune. » Ma nuit a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma nuit est longue, et longue, et longue, et semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche. Je cherche ton corps immense à côté de moi, ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact, ta peau. Où es-tu? Où es-tu? Je me tourne dans tous les sens. L'oreiller humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là.
Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre, mon corps te voudrait. Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s'oublier dans une chaleur. Mon corps appelle quelques heures de sérénité. Ma nuit est un cœur en serpillière. Ma nuit sait que j'aimerais te regarder, chaque courbe de ton corps, reconnaître ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour, celui que j'essaie d'endiguer, mais qui palpite dans la pénombre, dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler, mais elle n'a pas de voix. Elle voudrait t'appeler pourtant, et te trouver, et se serrer contre toi au moment, et oublier un temps, ce temps qui massacre. Mon corps ne peut pas comprendre. Il a autant besoin de toi que moi, peut-être qu'après tout, lui et moi ne formons qu'un. Mon corps a besoin de toi. Souvent, tu m'as presque guéri. Ma nuit se creuse jusqu'à ne plus sentir la chair et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance matérielle. Ma nuit me brûle d'amour. Il est 4 heures du matin. Ma nuit m'épuise. Elle sait bien que tu me manques. Et toute son obscurité ne suffit pas pour cacher cette évidence. Cette évidence brille comme une lettre dans le noir. Ma nuit voudrait avoir des ailes qui voleraient jusqu'à toi, t'envelopperaient dans son sommeil et te ramèneraient à moi. Dans ton sommeil, tu me sentirais près de toi et tes bras m'enlaceraient sans que tu te réveilles. Ma nuit ne porte pas conseil. Ma nuit pense à toi, rêve éveillé. Ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes solitudes. Son silence n'entend que mes voix intérieures. Ma nuit est longue, est longue, est longue. Ma nuit aurait peur que le jour n'apparaisse jamais plus. Mais à la fois, ma nuit craint son apparition. Parce que le jour est un jour artificiel où chaque heure compte double et sans toi n'est plus vraiment vécu. Ma nuit se demande si mon jour ne ressemble pas à ma nuit. Ce qui expliquerait pourquoi je redoute le jour aussi. Ma nuit a envie de m'habiller et de me pousser dehors pour aller chercher mon homme. Ma nuit sait ce que l'on nomme folie. De tout ordre, sème désordre est interdit. Ma nuit se demande ce qui n'est pas interdit. Il n'est pas interdit de faire corps avec elle, ça, elle le sait. Mais elle s'offusque de voir une chair faire corps avec elle au fil de la désespérance. Une chair n'est pas faite pour éprouver le néant. Ma nuit t'aime de toute sa profondeur et de ma profondeur elle résonne aussi. Ma nuit se nourrit d'échos imaginaires. Elle, elle le peut. Moi, j'échoue. Ma nuit m'observe. Son regard est lisse et se coule dans chaque chose. Ma nuit voudrait que tu sois là pour se couler en toi aussi, avec tendresse. Ma nuit t'espère. Mon corps t'attend. Ma nuit voudrait que tu reposes au creux de mon épaule et que je me repose au creux de la tienne. Ma nuit voudrait être voyeur de ta jouissance et de la mienne, te voir et me voir trembler de plaisir. Ma nuit voudrait voir nos regards et avoir nos regards chargés de désir. Ma nuit voudrait tenir entre mes mains chaque spasme. Ma nuit se ferait douce. Ma nuit gémit en silence sa solitude au souvenir de toi. Ma nuit est longue, est longue, est longue. Elle perd la tête, mais ne peut éloigner son image de moi, ne peut engloutir mon désir. Elle se meurt de ne pas te savoir là et me tue. Ma nuit te cherche sans cesse. Mon corps ne parvient pas à concevoir que quelques rues ou une quelconque géographie nous sépare. Mon corps devient flou de douleur de ne pouvoir reconnaître au milieu de ma nuit ta silhouette ou ton ombre. Mon corps voudrait t'embrasser dans ton sommeil. Mon corps voudrait dans pleine nuit dormir et dans ses ténèbres être réveillé parce que tu l'embrasserais. Ma nuit ne connaît pas de rêve plus beau que celui-là. Ma nuit hurle et déchire ses voiles. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant, et tes mots, et ta couleur. Le jour va bientôt se lever. C'est beau, hein ?
Alors, on savait que quand le temps s'étire, le cœur parfois s'étiole. Et là, en l'occurrence, on a pu en reprendre conscience avec Frida Kahlo, dont on connaissait le talent dès lors qu'elle prenait un pinceau, pas forcément dès qu'elle prenait la plume.
Ouais. Il y a une correspondance qui est éditée, j'ai pas relevé, mais il y a une correspondance de Frida Kahlo à Diego Rivera, un échange épistolaire qui est quelquefois très enflammé aussi, parce qu'ils ont quand même eu une histoire d'amour un peu vraiment tumultueuse. Mais il y a toujours eu beaucoup d'amour entre eux.
Oui, c'est...
Malgré des déchirements...
Les André Breton ou les Léon Trotsky qui ont voulu faire du gringue à Frida Kahlo s'y sont cassés les dents parce qu'elle était folle amoureuse de son homme et il n'y en avait pas d'autres.
C'est beau.
Oui, parce que Léon Trotsky, pour l'anecdote, avait squatté chez, quand il a dû fuir l'URSS, avait squatté chez Frida Kahlo en tant qu'exilé politique au Mexique. Et donc tout ça, bah, c'était de la poésie en prose en quelque sorte, parce qu'il y avait quand même un contenu poétique assez, assez splendide. Et justement, bah, là, c'est plus à une forme poétique proprement dite que tu nous proposes de nous consacrer dans un poème, un court poème en fait, que tu avais repéré, qui a une histoire un petit peu particulière d'ailleurs, puisque c'est un poème du 19e siècle, où la censure, souvent d'ailleurs du Second Empire, mais même avant, avait un petit peu la main lourde devant les tribunaux en ce qui concerne les poésies du style romantique, hein, des romantiques de l'époque, qui étaient parfois censurées pour pornographie carrément. On pense à la bataille d'Hernani, puis après, il y a eu le procès retentissant des Fleurs du Mal de Baudelaire.
Ah bah oui, bah puisque tu cites Baudelaire, moi je vais te citer Albert Mera. Alors Albert Mera, il est moins connu que Baudelaire, mais c'est la même école, c'est les poètes parnassiens, les poètes du Parnassien.
Rien à voir avec Mohamed Merah.
Non.
Fallait que je la fasse.
Mais tu sais, les poètes parnassiens, ils étaient quand même, c'était un mouvement. Hein, on comptait quand même, tiens, j'ai relevé, vous avez tous dû apprendre comme un vol de Gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère lointaine. Ils partaient, tu sais, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ça, c'est José Maria de Heredia qui était poète parnassien aussi.
D'accord.
T'as pas appris ça à l'école?
Je connaissais pas, mais maintenant que j'ai entendu le faire avec En Face, je vais rentrer chez moi et je vais me renseigner.
Alors donc, il y avait Théophile Gautier, il y avait José Maria de Heredia, il y avait Théodore de Banville, Charles Baudelaire, bien entendu, Mallarmé, si vous connaissez Mallarmé, Loïc, tu connais Mallarmé.
La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir,
mais c'est magnifique, Mallarmé, hein, à redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas, Copé, François Copé aussi, Verlaine, Rimbaud.
Le mec qui s'appelait vraiment François Copé?
Oui, François Copé. Tu veux qu'on parle de François Copé?
Non, pardonne-moi, mais moi,
j'ai eu un espèce de moment de recul, comme Stéphane, je crois. J'ai imaginé le politique avec.
Ah, bah oui.
Lui, c'était Jean-François Copé, autant pour moi.
Sauf le mien. Voilà. Oui, c'était Jean-François. Moi, le mien, c'est François, quand même.
Heureusement que tu es là pour nous enrichir,
qui est un peu éloigné.
Je vous ai fait peur. Peut-être qu'ils sont de la même famille. Il y en a un qui est beaucoup plus poète que l'autre. Verlaine, Rimbaud. Donc, bon, alors, bref. Donc, Albert Mera, il est né en 1840. Donc, tu vois, on est dans le 19e siècle. Il est mort en 1909 et il avait commis un très joli recueil qui s'appelait Idole, dans lequel il faisait des sonnets qu'il dédiait aux parties du corps humain. Donc il y avait les sonnets des seins, les sonnets des épaules, les sonnets des yeux, les sonnets de la bouche, etc. Et il en avait fait un très joli qui était destiné à une partie beaucoup plus intime de l'anatomie féminine qui a été censurée. Et à cette époque, Rimbaud et Verlaine, ils avaient eu un petit peu des mots avec Albert Mera. Ils s'étaient un peu fâchés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait du même bord politique. Mais ils reconnaissaient néanmoins le talent à Albert Mera. Et ils ont, eux, commis un autre poème qu'on ne citera peut-être pas aujourd'hui. Parce que...
Mais je suis sûr que tu reviendras dans une prochaine émission.
Mais on le citera parce qu'il est très rigolo. Enfin, il est très rigolo. Il reste très poétique quand même, mais ça peut... Voilà. Alors moi, j'ai choisi un très beau sonnet donc, d'Albert Mera. C'est le sonnet des seins, il est très court, dans ce recueil Idole. Et donc, ça dit ça. L'éclosion superbe et jeune de ses seins, pour enchaîner mes yeux fleuris sur sa poitrine, tels deux astres jumeaux dans la clarté marine, palpitent dévolu au suprême dessein. Vous contenez l'esprit loin des rêves malsains, noble rondeur et froid de la pudeur chagrine, et c'est d'un trait pieux que mon doigt vous burine, lumineuse parmi la pourpre des coussins. Blanche sérénité de l'océan des formes, quelquefois je vous veux sous les muscles énormes, géante et crevant le moule de mes mains. C'est beau, hein?
Ah oui, avec une langue aussi musicale, j'ai envie de dire que le sonnet, ça sonne bien, justement.
Oui, mais voilà. Mais voilà
point, moi, point, point, point.
Bravo. Vraiment, là, j'applaudis à tout rompre.
Alors, m'en voudrais-tu, cher Laurence, si j'apportais moi aussi ma petite contribution à ce printemps du poète.
Ta pierre à mon édifice.
Voilà, et en quelque sorte, puisque j'ai retrouvé sur Twitter un quelques stances d'une fille qui s'appelle Sandra et qui elle aussi a des velléités politiques, poétiques, avec ses...
c'est
peut-être aussi des velléités politiques, j'ai pas parcouru tout son Twitter
non, c'est
encore.
Joli.
Mais Sandra dit « Je trompe l'envie du bout des doigts, c'est seul que je gémis, tu n'avais qu'à être là. »
Très joli, bah oui, très joli. Ouais, messieurs, quand même, qu'attendez-vous ?
Voilà, en attendant, puisque c'est le printemps et que les hormones vont travailler, que les couples vont, certains couples vont se former, eh bien, il faut bien occuper l'espace entre-temps. Et donc, il n'y a aucun mal à ce que les mains se glissent dans les culottes les soirs de solitude. Hein, on le rappelle tout de même. Et bien justement, on arrive en fin d'émission déjà, chers amis. Je tenais simplement à rappeler, alors je zappe un petit peu les brèves dans cette émission, mais je tenais quand même simplement à rappeler deux aspects qui m'ont choqué dans l'actualité récente, puisqu'on parlait de droits des femmes. D'une part, ça a été quelque chose dont on a entendu parler tout récemment, c'était avant-hier, je crois, où des gynécologues, le syndicat des gynécologues, menace de se mettre en grève s'ils ne sont pas reçus par la ministre de la Santé, qui c'est Agnès Buzyn, je crois. Alors que des gars qui déjà soient dépositaires d'un service public menacent de se mettre en grève, déjà, ça me choque, parce qu'à partir du moment où tu t'engages dans ces carrières-là, tu t'amènes au moins à reconsidérer ton droit de grève. Pas
absolument,
forcément,
c'est
pas
dans forcément la déontologie, hein, c'est leur déontologie.
Sachant qu'il me semble en plus que c'est pas uniquement, enfin, c'est pas se mettre en grève, c'est uniquement se mettre en grève de l'IVG. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire leur consultation classique de dépistage et autres, mais ils refusent uniquement de faire l'IVG tant qu'ils ne sont pas reconnus, reçus par Agnès Buzyn, ce qui en fait en plus d'être un problème de code déontologique. Enfin, ça montre clairement leur
mais ce qui aura quand même des conséquences dramatiques
bien sûr,
sur les
ça.
Femmes, hein,
bien sûr.
Quand même.
Exactement. C'est une...
Le ministre a dit que c'était vraiment prendre en otage les femmes.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. En fait, voilà ce que disait notre invité à côté, c'est que voilà, c'est une prise d'otage complètement
totale,
en bonne et due forme. Parce que, encore une fois, ils sont dépositaires d'une autorité publique, ils n'ont pas à jouer avec le corps des femmes comme ça. Ils servent des femmes en fait comme un moyen de pression, encore une fois, ce qui est complètement odieux.
Alors, je ne sais pas si on peut dire dépositaire d'une autorité publique, mais en tout cas, ils sont dans une mission de service public. Et alors, si l'information est confirmée, si c'est vraiment que la grève des IVG, alors là, c'est non seulement discutable, mais ça devient carrément dégueulasse parce que c'est une prise de position idéologique. Et alors, le terme prendre en otage est peut-être un petit peu fort, mais parce que tout le monde dit ça tout le temps dès qu'il y a une grève SNCF. Mais tout de même, là, il s'agit quand même de la vie de certaines femmes qui risquent d'être mises en danger. Et ça, je doute que ce soit très légal, mais en plus, c'est tout simplement odieux, dégueulasse. Quoi. Donc ça, c'est effectivement, vous avez réagi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, à trouver ça franchement odieux, surtout d'après des gens qui doivent avoir non seulement une éthique, mais carrément une déontologie professionnelle. Et un autre truc qui m'a choqué, mais alors là, c'est peut-être un petit peu plus discutable, ça n'engage que moi, c'est la manière dont a été traitée Monique Pinson-Charlot sur France 5 dans une émission qui s'appelle C'est l'hebdo, où elle présentait son travail de sociologue sur la manière dont les rapports de classe se dessinent dans la société française actuelle. Elle a parlé avec son mari. Elle a écrit un bouquin qui a été adapté au théâtre pendant le Festival d'Avignon, d'ailleurs, c'était la violence des riches. Et évidemment, une telle position idéologique, un tel parti pris, forcément, a créé quelques turbulences dans la sphère médiatique, qui est parfois accusée, justement, de faire le jeu des riches en question. Et Monique Pinson-Charlot a été reçue pour présenter son bouquin sur 40 ou 50 minutes d'émission. L'Acrimed, l'Observatoire des médias, a vu qu'elle a été eu peut-être 5 minutes de parole.
C'est exactement ça.
C'est contradicteur.
Oui, oui.
Et encore 5 minutes de parole, elle a été interrompue à chaque phrase. Elle n'a pas pu finir une phrase. Donc, pour développer ses idées, qu'on y soit opposé ou qu'on les approuve, peu importe, mais l'animateur Ali Badou, qui avait un devoir de neutralité qu'il n'a carrément pas respecté, d'ailleurs peut-être même s'en rendre compte, et pour au niveau de ses adversaires sur le plateau, je ne peux même pas ironiser sur le stéréotype du mâle blanc dont on fait parfois des gorges chaudes à tort ou à raison, puisqu'il y avait aussi des femmes qui ont brillé par leur absence d'ailleurs, enfin en tout cas par leur silence sur le plateau, et ensuite, Ali Badou, qui lui-même est d'origine maghrébine, donc ce n'était pas forcément le stéréotype du mâle blanc. Mais en tout temps, on avait ce qu'on appelle aussi parfois, en tout cas ce que Serge Halimi appelle les chiens de garde, qui en l'occurrence ont aboyé en meute sur Monique Pinson-Charlot. Et à tort ou à raison, pour ma part, j'estime que si ça avait été un homme qui leur avait tenu tête, ils n'auraient pas été aussi hargneux. Alors que là, c'était une femme, elle était seule, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Là encore, c'est vraiment une bande de salopards, en tout cas à mon sens. Voilà, mais bon, je voulais quand même...
Combien aussi.
On est bien tous d'accord autour de cette table, je pense. Mais allez, on va quitter quand même se quitter en restant dans le thème des droits des femmes et des rapports femmes-hommes. On va se quitter quand même avec quelques mots d'humour que j'ai lu sur Twitter. Savinit qui écrit donc sur son tweet « Même dans les périodes sombres et hostiles, la femme est supérieure à l'homme. La preuve, avec le froid, vous avez le kiki tout petit et nous, on a les tétons qui pointent. » Voilà. Allez.
C'est très joli. Sinon, vous pouvez aussi essayer de relire Simone de Beauvoir, hein, par exemple, ou Anaïs Nin aussi. Moi, c'était mes idées de lecture pour le week-end.
Ah ben, on va peut-être être quelques-uns à te suivre, justement. Voilà, chers amis, c'était notre émission du mois de mars, où on tenait quand même à passer un grand moment sur le thème des droits des femmes, qui était à l'honneur vendredi dernier, vendredi 8 mars. C'est justement cet ordre d'idées, je vais y arriver. Merci Laurence pour toutes tes
précisions.
Merci
Stéphane, merci Loïc.
Et merci à Loïc, toujours fidèle derrière la régie technique. Et bien, c'est pour rester dans cet ordre d'idées que je tenais à ce qu'on finisse avec une musique comme à notre habitude. Et là, ce sera Nathalie Joly, que j'avais aussi découvert lors du dernier festival d'Avignon, qui reprend une chanson du 19e siècle, à l'époque où la violence conjugale et les avortements clandestins étaient chose commune pour les femmes, de la grande majorité des femmes françaises, et assez très, très dur à vivre et qui raccourcissait largement l'espérance de vie pour les femmes populaires.
Et
voilà, où donc les femmes, elles se faisaient engrosser, puis elles picolaient pour oublier leur douleur et leur misère, et puis elles se refaisaient violer par un mari violent, en l'occurrence. Et c'était comme ça tout le temps, toute l'année. Et donc, c'est un petit peu le thème de cette chanson, reprise par Nathalie Joly, la buveuse d'absinthe, hein, vu qu'à la fin du 19e siècle, la violence et l'alcoolisme étaient des problèmes récurrents dans la société française. Et c'était à l'époque a été écrite cette chanson que reprend Nathalie Joly, la buveuse d'absinthe. Nous, on vous souhaite de pas trop picoler quand même ce week-end, de lire Anaïs Nin éventuellement si vous voulez suivre le conseil de Laurence. Mais dans tous les cas, on vous retrouve au mois d'avril pour une nouvelle émission d'Erosmose. Voilà, mes petits fripons. À bientôt.
À très bientôt.
Elle était toujours enceinte et puis elle avait un air. Pauvre buveuse d'absinthe, elle vivait dans la crainte de son ignoble partenaire. Elle était toujours enceinte par les nuits où le ciel suinte. Elle couchait en plein air, pauvre buveuse d'absinthe. La lorgnait d'un œil amer. Elle était toujours enceinte. Dans Paris, ce labyrinthe immense comme la mer, pauvre buveuse d'absinthe, elle allait prunelle éteinte, rampant comme un verre, elle était toujours enceinte. Oh, oh, cette jupe déteinte qui se bombait chaque hiver, pauvre buveuse d'absinthe, sa voix n'était qu'une plainte, son estomac qu'un cancer, elle était toujours enceinte. Je suis déjà dans l'enfer, pauvre buveuse d'absinthe. Or, elle but une pinte de l'affreux liquide vert. Elle était toujours enceinte. Ah, ce fut sa dernière plainte avant. sincères, pauvre buveuse d'absinthe, et son homme en disant feinte, bon débarras, fini l'enfer. Elle était toujours enceinte. Elle effraie maintes et maintes, rien qu'en tournant sa cuillère. Pauvre buveuse d'absinthe.